16h-18h. Braise au pluriel, Michel Pagès.
En compagnie de Jean-Luc Le Pogam. Jean-Luc, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors, on s'intéresse au mange-rêve avec un nouveau titre qui vient de sortir qui s'appelle Miroir du rat. Peut-être avant de parler du Miroir du rat, peut-être expliquer ce que sont les mange-rêves. C'est une série qui se... Non, Jean-Luc.
C'est quoi ? C'est une série qui...
tout dire, moi, une fois de plus.
Ouais, non, mais il faut pas être trop bavard. C'est une série qui se passe en 2024 en Europe, dans une Europe cerclée d'un mur électromagnétique par le pouvoir politique en place, c'est-à-dire un pouvoir complètement totalitaire. Et on peut imaginer que Auschwitz, Colditz, etc., tout ça s'est remis en marche. Et sauf qu'on ne s'attaque plus aux juifs, aux tziganes, aux homosexuels, aux anti-Hitler, etc. On s'intéresse surtout aux artistes, c'est-à-dire c'est l'éradication de l'art en général. Le pouvoir en place a décidé d'éradiquer les arts, donc le rêve.
Alors justement, les mange-rêves, alors qui sont les mange-rêves dans cette histoire?
Les mange-rêves, c'est en fait, on aurait pu, j'ai hésité à un moment donné à appeler cette série le mange-rêve ou les mange-rêves. En fait, le mange-rêve, c'est Bogdish, c'est un président qui s'est... En fait, c'est arrivé dans les années 2020-2024, quelqu'un qui est arrivé en disant, vous n'avez pas voulu vous occuper de telle et telle chose, le climat ne vous intéresse pas, vous inquiétez pas, je vais me charger de tout. Sauf qu'en fait, effectivement, il s'en est chargé, mais pas comme on s'y attendait, quoi. Voilà. Et c'est un petit peu l'idée de 2002 ce qui est arrivé en 2002 qui m'a donné cette idée de plus un rêve. J'ai synthétisé les deux, puis je me suis dit qu'avec ça, on pouvait faire une série intéressante. D'autant plus que l'actualité me nourrit tous les jours, donc.
Comment ça, plus un rêve? C'est quoi ce rêve?
Il m'arrive de rêver. Je ne suis qu'un être humain. Et, de temps en temps, il m'arrive aussi de noter mes rêves dans un bouquin. Et avec ce qui a failli arriver en 2002, c'est-à-dire enfin ce qu'on aurait pu croire qui pouvait arriver, c'est-à-dire l'avènement de Le Pen, je me suis dit tiens, avec ça on pourrait faire quelque chose. Et c'est vrai que depuis, l'actualité n'a pas cessé de me nourrir à ce niveau-là, c'est-à-dire que je pense que le rêve est en tous les clignotants, en tout cas au niveau de la culture, au niveau du rêve, au niveau des libertés, tous les clignotants sont au rouge à mon avis. Tout le monde laisse un petit peu mijoter ça tranquillement, pensant que ça va pas arriver, mais moi j'ai peur un petit peu quand même. Donc du coup, je me suis mis à écrire cette série, voilà.
Alors, le rêve plus l'actualité, Jean-Luc Le Pogam, t'informes comment, de quelle manière, ça prend quelle importance dans ta vie quotidienne, l'information?
Je pense que c'est quelque chose de tous les instants. C'est vrai que quand je pars en vacances pendant 3 semaines et que je reviens puis que j'entends les nouvelles, ça me fait bizarre. Mais je suis bien content en même temps de m'en être séparé un petit peu. Mais je pense que l'actualité, elle concerne tout le monde et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Donc moi, je dirais que ce soit sur le net, que ce soit aux infos télévisées, dans les journaux, j'écoute ce qui se passe. Je suis très attentif à ce qui se passe, ouais.
Sur le net, tu vas où, tu fais quoi, tu fais comment pour t'informer?
Il y a des sites où on peut se renseigner quand même. Comme Rue 89, s'il faut des noms, c'est ça.
Pour diriger les gens qui nous écoutent sur des endroits où on peut aller. Quoi.
Ouais, j'écoute aussi, je lis aussi ce que disent les gens. Je suis assez interloqué parfois parce que je lis sur Internet, sur des forums, des gens qui comprennent rien, mais c'est assez hallucinant parce que on a beau se prendre des coups sur la figure, c'est pas assez. Je pense qu'on n'est pas encore au fond de la piscine. Tu sais, on dit toujours que quand on est au fond, qu'on a le pied qui traîne et qui pousse sur le carrelage pour remonter. Je pense qu'en France, on n'est pas encore assez dans la merde. Il va falloir qu'on en arrive comme dans les pays du Maghreb, etc., pour que les gens réagissent. En fait, quelqu'un m'a expliqué il n'y a pas longtemps qu'on était dans un syndrome de la grenouille. Je ne sais pas si tu connais ce syndrome, qui consiste à mettre dans une grenouille dans une casserole d'eau chaude et immédiatement elle va sauter. Alors que nous, on est dans une autre casserole à côté où on nous a mis l'eau froide dedans. Donc la grenouille, elle est peinarde, le gaz chauffe en dessous tranquille et elle cuit. Et elle n'a jamais le réflexe de sauter de la casserole. Voilà. Et je crois qu'on est dans ce système-là.
Alors ça, c'est effectivement l'univers, hein, donc l'actualité. Après, c'est quand même une tâche à longue échéance. Ça a commencé il y a plusieurs années. C'est une longue série, les mange-rêves.
Ouais, une longue série. Elle a débuté dans ma tête en 2006. Elle a commencé à être... le premier tome est sorti en 2008. Oh, ça fait guère que 3 ans, hein.
Ouais,
et 5 tomes en 3 ans.
C'est qu'un début, quoi, en fait.
Voilà, c'est qu'un début. Là, on en est cycle 2. Je pense pas qu'il y en aura 50. Voilà, j'ai pas envie de faire une série qui va s'étaler sur 50 tomes. Je pense que 6 ou 7 suffiront. Là, j'en suis à penser déjà au tome 6, parce que le 5e est sorti en mars, Le Miroir du Rat. Et je pense au 6, ouais. Il faut que je rencontre des résistants, parce qu'en fait, le 6 sera à ce moment assez intéressant où les gens qui résistent, le noyau résistant, qui est en fait un noyau d'adolescents en particulier, va scinder en deux. Ceux qui vont virer vers le terrorisme et ceux qui vont virer vers la résistance, avec évidemment tout ce qui va avec.
J'ai bien l'impression qu'on va parler politique hein, dans quelques minutes.
Ça se pourrait, ouais.
Ce serait pas étonnant encore. Ce qu'on écoute, parce que c'est toi qui as choisi la programmation musicale, qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Ben on va commencer par Yves Simon, parce que c'est quelqu'un d'abord que j'aime énormément pour ce qu'il a écrit, pour ce qu'il a chanté, et puis qui a eu la gentillesse d'accepter de m'offrir 4 lignes du premier Mangerève, justement. Et c'est extrait de son dernier album Rumeur.
On écoute Yves Simon, on se retrouve avec Jean-Luc Le Pogam dans quelques minutes.
J'ai peur des balafres sur le cœur, des coups de poignard qui blessent les humeurs. J'ai peur des belles aventurières, des albertines de romans qui emprisonnent leurs amants. J'ai peur des griffes qui défigurent, qui font des larmes sur la figure. J'ai peur d'être à la merci d'une voleuse d'âme sans souci, captif d'une autre vie. Des blessures qui entament, qui rendent fou, qui vaguent à l'âme. J'ai peur des typhons, des passions et des séismes ravageurs sur l'échelle de Richter. J'ai peur des déchirures pour rien, des habitudes où tout semble aller bien. J'ai peur d'être pris dans une histoire où tout s'en va, où rien ne va, où je ne serai pas. Balafre sur le cœur, des coups de poignard qui blessent les humeurs. J'ai peur qu'une belle aventurière, une Albertine de roman, m'emprisonne sur la terre. J'ai peur qu'une belle aventurière, une Albertine de roman, m'emprisonne sur la terre.
Yves Simon, choix musical de Jean-Luc Le Pogam en direct en notre compagnie ce samedi sur France Bleu Brésil. Pourquoi Yves Simon, Jean-Luc ? Pourquoi ce morceau-là particulièrement ?
J'ai peur. Ah oui, parce que j'ai peur. J'ai peur, et puis c'est vrai que pour moi, Yves Simon, c'est quelqu'un... La compagnie des femmes, le dernier bouquin qu'il vient d'écrire. Il y a plein de livres, en fait, j'irais de Transit Express, en passant par Océan, ou en passant par La Dérive des Sentiments. C'est quelqu'un qui m'a toujours fasciné par son écriture en tant que musicien, compositeur, interprète, mais aussi en tant qu'écrivain. Donc, ouais, et puis je trouve que l'album, le dernier album qu'il a fait, l'album du retour d'Yves Simon, en fait, sur la scène musicale, est un album vraiment, vraiment intéressant.
On s'intéresse, Jean-Luc, au Mangerève, hein, une série, une presque longue série, avec le nouveau titre, Le Miroir du Rat. Ça nous emmène dans une Bretagne qu'on ne reconnaît pas, parce qu'on est en 2024, c'est pas loin, on est en 2011, le livre se passe en 2024, et la Bretagne ressemble à tout, sauf à celle qu'on connaît maintenant.
Ouais, j'ai voulu La défaire, en fait. Parce qu'en fait, pour rester un petit peu, bon, c'est vrai que j'habite en Bretagne, je suis breton depuis des générations, mais j'avais pas forcément envie de faire un bouquin sur la Bretagne, j'avais envie de faire un bouquin sur cette Europe-là, sur ce monde-là, sur cet univers-là. Il se trouve que j'habite en Bretagne et puis que je maîtrisais bien le coin, donc pourquoi pas, quoi, pourquoi pas s'occuper de chez nous, j'aurais pu habiter dans l'Est et le faire autrement. Enfin, du moins, non, là-bas, et de la même façon. La Bretagne, effectivement, elle ressemble plus à ce qu'elle est aujourd'hui, si ce n'est que on est toujours des rebelles et on est un petit peu comme le village gaulois, quoi, quelque part. Et j'avais envie, par contre, de garder ça, ouais.
Alors, il fait froid dans ta Bretagne de 2024.
Bah, le climat, comme je disais tout à l'heure, le président Bogdiche qui gère toute l'Europe est arrivé en disant ne vous embêtez pas, je vais m'occuper de tout. Et il a mis en place, notamment à part ce mur électromagnétique qui cercle l'Europe, il a mis aussi en place un système pour gérer le climat. Et quand on veut isoler les populations, le mieux, je pense que c'est le froid. On casse tous les ponts sur les autoroutes, on isole les villages, on isole les gens. Après, on met du froid par-dessus et tout le monde reste chez soi. Donc, en fait, c'est plus facile de dompter les gens en les isolant.
Est-ce que tu as cherché une vraisemblance dans ton histoire ?
Une vraisemblance par rapport...
Est-ce que c'est techniquement possible ? Est-ce que ce sera techniquement possible de gérer le climat de cette
manière ? Il paraîtrait que dans l'Alaska, il y a une base américaine qui est en train de travailler en ce moment sur la façon d'agresser des pays par le climat. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On parle de guerre bactériologique, on parle de guerre chimique, pourquoi pas de guerre climatique ? Ouais, ça me paraît tout à fait possible.
Alors, l'idée principale, c'est bon, la dictature, certes, hein, Bogdiche, le froid imposé à tout le monde de manière scientifique, hein, volontaire, et puis, c'est des jeunes qui résistent.
C'est des jeunes qui résistent, mais il faut quand même savoir que le début de l'histoire, en fait, c'est des gamins qui sont en train de prendre un cours de guitare hebdomadaire chez un ancien musicien qui séjourne dans un moulin dans la presqu'île de Ruisse, à côté entre l'océan et le golfe. Et arrive une première descente de la milice, etc. Et l'histoire s'emballe très rapidement. Et on en arrive forcément à... Comment dirais-je, une histoire où les gens vont avoir, où les jeunes vont prendre une grande place, c'est-à-dire que déjà, eux, on sent qu'ils vont résister, ils fuient au départ, forcément, parce qu'ils ont peur. Ils se retrouvent chez eux, c'est ces deux gamins, deux ados, en fait, hein, qui fuient en vélo, c'est la première neige, l'hiver va durer 9 mois, ils arrivent chez eux, pas de parents, il y a des choses qui se sont passées déjà. La machine est en marche, mais ils le savent pas encore, ils comprennent pas pourquoi, à la fin de ce cours de guitare, une milice est descendue au moulin, a agressé le musicien, l'a kidnappé, a foutu le feu au moulin, ils ont réussi à s'enfuir, ils arrivaient à la maison, pas de parents. Et en fait, de fil en aiguille, il y a un des gamins qui, donc, chez lui, appelle son grand-père, qui est un grand-père qui travaillait pour un service de contre-espionnage. Donc, qui a été mis à la retraite anticipée, parce qu'avec le mur électromagnétique, on n'a plus besoin de ces gens-là. J'ai voulu des grands-pères jeunes, qui avaient la banane. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que des jeunes qui résistent. Il y a aussi des adultes qui ont compris. C'est un clin d'œil au vaccin de la mère Bachelot, par exemple. Je suis allé beaucoup plus loin. Moi, il y a des adultes qui ont compris qu'il fallait pas se faire vacciner. Il faut pas dire oui à tout, quoi, quelque part. Alors donc, les premiers, c'est les jeunes, parce qu'on a tendance à dire, on les méprise, les jeunes. On dit qu'ils savent plus compter, ils savent plus écrire, ils savent plus lire, c'est des cons, etc. Moi, je pense que c'est tout l'inverse. Sauf que s'ils sont comme ça, s'ils sont ce qu'on en dit, c'est que nous, parents, n'avons pas fait notre boulot. Il serait peut-être temps de s'en rendre compte. Et moi, j'ai voulu dire que, justement, les jeunes sont peut-être pas aussi cons que des gens veulent bien le dire, quoi.
Nous, parents, Jean-Luc Le Bogom, tu as des enfants, toi ?
Ouais. Ouais, complètement. J'ai des enfants, j'assume mon rôle de père. J'assume aussi ce que j'ai pu leur expliquer et le chemin qu'ils vont faire avec ce que je leur ai donné. Je leur ai jamais rien imposé. Je leur ai donné des idées et ça continue parce qu'ils sont grands. Maintenant, ils continuent de nous appeler quand ils sont un petit peu dans les cinq lettres. Et on leur dit jamais fais ci, fais ça. On leur dit si j'étais toi, je pourrais. Il y a plusieurs directions à prendre et après, c'est eux qui choisissent, quoi. Mais je pense que justement, dans le tome 3 et le tome 4 des Manges Rêves, je critique énormément cette société où on a collé des MP3 sur les oreilles des gamins, on les a éduqués à coups de PlayStation, on leur a mis un ordinateur portable et puis un jour ils débranchent tout ça puis ils se rendent compte que le monde a avancé et qu'eux sont restés derrière. Et ils sont bien fait niquer, quoi. Et donc, du coup, je les critique un peu parce qu'ils se sont fait avoir. Mais quelque part aussi, j'en mets plein la tête des parents qui ont laissé faire ça. On est responsable de ça. Je veux dire, la terre qu'on va leur laisser demain, C'est nous qui en sommes responsables, c'est pas eux. Il y a quelqu'un qui me disait ce midi en déjeunant que les générations futures, c'est bien fait avec être là avant. Moi, je pars d'un autre principe.
Bien joué.
Il fallait la reprendre, celle-là, quand même.
Merci.
Je pense que les générations futures, en fait, nous, on bénéficie de ce pourquoi nos parents et grands-parents se sont battus. Je veux dire, la sécurité sociale, tout ce qui a pu se passer après la guerre, les gens qu'on a bien bavé, nous, on en a profité. Et on est en train de laisser filer tout ça. Et je me demande ce qu'on va laisser à nos gamins. Et ça me fait très peur.
On continue à parler justement des manges-rêves avec Jean-Luc Le Pogam dans quelques minutes.
Fucking stop!
17h26 ce samedi après-midi sur France Bleu, Brésil, c'est Braise au pluriel avec entre autres comme invité Jean-Luc Le Pogam avec le choix musical. Jean-Luc, alors c'était quoi ça?
C'est un groupe de Lorient qui s'appelle PYG, P-Y-G, avec
P-Y-G.
P-Y-G, ouais. En référence à Pink, au PYG de Pink Floyd forcément, bien que sur ce morceau on ne l'entende pas vraiment, parce que c'est vrai que c'est un album qui se balade, ça s'appelle End of the World. Et c'est un album qui se balade, en fait, une musique qui se balade entre le Floyd et pratiquement le métal, quoi. Un superbe album. Et là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'était I Want That Stuff, qui explique un peu... on pourrait, parce qu'on en parlait tout à l'heure, dire que c'est le désir en général, quoi. Je veux, je veux, je veux, puis qui se termine par je veux une arme, en fait. Voilà, et on en arrive là, effectivement, dans le dernier tome, où les jeunes finissent armés.
Jean-Luc, Le Pogam, niveau musique, c'est quoi tes racines?
Mes racines, ma...
Gamin, t'écoutais quoi?
Gamin, j'ose même pas le dire, mais on va passer la période gamin.
Non, vas-y, gamin.
Bon, alors j'ai commencé, mon premier 45 tours, c'était un album, un disque des Wallace Collection, ça s'appelait Daydream, et puis après... Voilà, c'est ça. Et juste après, il y a eu un album de Hallyday qui s'appelait Rivière ouvre ton lit, où il y avait des morceaux comme Je suis né dans la rue, Mais j'ai bien vite évolué, puis j'ai... Le vrai premier 33 tours que j'ai eu, en fait, c'était Free avec avec Paul Rogers, qui est devenu le leader de Queen maintenant. Et qu'il y avait un morceau qui s'appelait All Right Now dedans.
Ah, ouais.
Et après, bon, après, ça s'est baladé de Cat Stevens en passant par Neil Young, Led Zeppelin, Deep Purple. Maintenant, beaucoup Rammstein, j'aime beaucoup ce groupe-là. On en retrouve quelques paroles dans mes bouquins d'ailleurs. Et puis, quoi d'autre? En ce moment, j'écoute beaucoup Angus and Julia Stone, j'aime beaucoup.
Qui passe très bientôt d'ailleurs
aux Vieilles Charrues. Ouais. Et puis j'écoute aussi beaucoup Pat O'Mey en ce moment. Et puis Ange a toujours fait partie. C'est comme Neil Young, en fait. Ange et Neil Young, c'est depuis les 10 ans, ils sont toujours là, quoi.
Ange, qu'on l'entendra dans pas très longtemps d'ailleurs, en fait. On s'est intéressé à la musique. Et quand tu écris, Jean-Luc, quand tu écris Les Manges Rêves, est-ce que tu écoutes de la musique en écrivant?
Non, jamais. Non, j'écoute de la musique, c'est deux mondes différents, j'arrive plus à faire ça. J'ai réussi à le faire quand j'écrivais des articles de presse ou des choses comme ça, ou quand je bossais pour une autre radio, mais non, j'ai besoin vraiment de silence. Je suis sous un grand Velux et quand il pleut, quand il grêle, c'est vraiment, ça m'arrange bien, quoi. Et l'été, j'ouvre un grand congélateur et je me mets dedans pour travailler. Je fais toujours ça.
T'as commencé à écrire comment, dans quelles circonstances? Parce qu'en fait, tu racontais, t'as travaillé pour une radio qui n'était pas celle-ci.
Oui.
Tu as écrit pour la presse écrite.
Oui.
Et quand as-tu commencé à écrire pour toi, pour cette histoire?
Bah, j'ai rencontré il y a quelques années, je faisais partie de l'équipe de Quai des Bulles à Saint-Malo, et j'ai rencontré un écrivain qui passait par là, un petit bonhomme à moustache, qui m'a dit j'ai une série pour les enfants et je cherche des illustrateurs. Alors on a discuté un petit peu, il m'a dit voilà, j'écris une série, je suis l'auteur de Marie Lester, moi je connaissais deux noms, quoi.
Ah, le petit bonhomme à moustache.
Le petit bonhomme à moustache, ouais.
C'est encore un breton.
Ouais, avec un pull rayé et tout, et puis bon, voilà, et puis il me dit je fais une série qui s'appelle Biscotto et Philo Sec, tu devrais lire ça, parce qu'on s'est tout de suite tutoyé. Et donc il m'a laissé les deux premiers tomes et j'ai complètement craqué sur ces personnages, et c'était Jean Fayère, je le savais pas. Et donc d'abord il a pas trouvé d'illustrateur parce qu'on a tellement discuté qu'il s'est barré. Il avait oublié les illustrateurs.
Donc Jean Fayère, le papa de Marie Lester, bien connu.
Et donc je lui ai dit mais ça serait vraiment superbe. D'abord je les ai lus, après j'ai fait des dossiers PEDA pour les écoles sur les deux premiers tomes, et ce qui ont été édités, etc. Et puis du coup, un jour, je lui ai dit, ça serait... Parce que cette série-là, il n'avançait plus dessus. Jean est branché sur tellement de bouquins avec la série Mamig, la série Marie Lester, il n'avait pas trop le temps de s'occuper de ça. Je lui ai proposé d'en faire un à deux. Et dans un premier tome, il m'a dit, je cite... Mais il m'a dit oui d'abord au début, puis après il m'a rappelé, puis il me dit, ouais, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un, j'ai essayé, mais bon, je cite après, hein, il n'avançait ni de la tête ni du cul.
Ça, il parle pas exactement comme il écrit, alors...
Ça dépend. Et donc, il est revenu en arrière, puis moi je lui ai dit, écoute, je vais t'écrire les deux premiers chapitres, et puis voilà, puis c'est parti comme ça, on a écrit ce bouquin ensemble, et puis du coup il m'a dit, après, et pendant les séances de dédicace qu'on avait, les gens nous disaient « Ah, vous avez donné le goût de la lecture à nos enfants, quand est-ce que c'est la suite ?» Et puis moi, j'arrêtais pas de le tanner, quoi. Puis un jour, il me dit « Non, j'écrirai plus jamais avec toi. » C'est l'humour Fayère, ça. Et donc, il attend qu'on se liquéfie en face de lui, et puis une fois qu'on est à l'état liquide, il te dit « Par contre, tu vas quand tu vas te démerder pour continuer à écrire tout seul parce que tu le fais trop bien. Enfin, c'était à peu près les termes qu'il a employés. Donc, du coup, j'avais déjà tous les mange-rêves dans la tête, quoi. J'avais un petit peu scénarisé tout ça. Et j'ai été édité par les éditions Palémon dans la foulée, quoi.
Voilà. Donc, tu t'es fait avoir, en fait, par Jean Fayet.
Ah ouais, mais agréablement.
Qui est effectivement l'auteur de Marie Lester, mais également le chef des éditions Palémon, où on trouve la série des Mange-Rêves dont on continue à parler.
Il y avait une histoire qui était très sympa quand même, c'est qu'il y a des amis qui m'ont dit oh là là, putain, c'est un Fayet, c'est un bigoudin, toi t'es un Léonard, parce que, étant brestois, j'ai appris que j'étais Léonard. Et on dit ouais, ça va jamais le faire, avec un bigoudin, tu verras, t'arriveras pas à bosser. Mais on s'est jamais engueulé.
Et ça fait des années que ça dure. Tiens, juste géographiquement, tu vis où maintenant?
Je vis dans la presqu'île de Ruys, c'est-à-dire dans le golfe du Morbihan.
Et on a un peu compris. On se retrouve dans quelques
minutes. Non, mais tous les gens, ils ne sont pas forcément doués en géographie.
D'accord. Merci pour ces précisions, Jean-Luc Le Pogam.
Sous
17h36 ce samedi après-midi sur France Bleu, Brésil, suite de Brésil Pluriel en compagnie de Jean-Luc Le Pogam, musique choisie par Jean-Luc. Là, c'était quoi? C'était Ange, hein?
Ouais, c'est le dernier album de...
Pourquoi ce morceau?
Les Collines Roses, parce que l'album est un petit peu comme un album concept, et quand on passe Les Collines Roses, après, c'est vraiment pas beau ce qui se passe. Le Père Noël, le Père Noël est mort, enfin, il y a plein de choses qui... c'est pas vraiment très gai. Mais donc, on a encore ces Collines Roses pour vivre, pour espérer.
Les Mange-Rêves, premier cycle. Alors, je vous le dis pour si vous n'êtes pas au courant encore, hein. Premier numéro, donc Le Grand Dérèglement, puis La Route du Nord, puis Tombe Mort, première partie, puis Tombe Mort, deuxième partie, deuxième cycle qui s'ouvre avec le cinquième livre, Le Miroir du Rat. Il y aura La Révolte des Chiens plus tard, hein, l'année prochaine.
Pour l'année prochaine.
Est-ce que, Jean-Luc, tu avais dès le départ la sensation que ça allait être long comme ça, une longue saga, ou est-ce qu'au départ il y a eu un bouquin et puis bon, bah voilà, les faits ont fait qu'il fallait continuer?
Au départ, il était prévu qu'il y ait 3 tomes. Parce que je pensais qu'en 3 tomes, j'allais pouvoir boucler cette affaire. Sauf que le climat, à mon avis, comme je le disais au début de l'émission, continue de dégénérer, continue de se dégrader. Et sauf que on n'avait pas prévu aussi que ça marcherait bien. J'avais pas prévu non plus que l'éditeur allait me dire, écoute, vu tout ce qui se passe, vu l'actualité, etc. Et dans tout quoi tu t'es embarqué, pourquoi pas continuer? Et du coup, je me suis laissé aller, j'ai largué mon écriture, j'ai lâché mon écriture, quoi, voilà. Et donc, forcément, la trilogie se transforme en série. Donc je pense qu'il y aura, ça sera une double trilogie, ça m'irait très bien ça, ouais.
Une double trilogie.
Une double trilogie, ça ferait donc 6 tomes, mais non, ça ferait 6 tomes.
Non, c'est juste pour savoir, que je pose une question comme ça pour faire l'intéressant. Bien, et au fait, ça a commencé, Les Mange-Rêves, en 2005, on est en 2011, c'est bien ça, en 2005.
Enfin, le premier tome est sorti en 2008.
En 2008, oui, ouais. Mais tu as commencé à écrire,
pensais,
toi,
voilà.
En 2005. Avant, au fait... Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Qu'est-ce qui t'a amené à un jour prendre un stylo ou je sais pas quoi, un clavier?
Je pense que j'ai toujours eu un stylo dans la main. J'ai toujours écrit de la poésie, j'ai toujours écrit des tas de choses. Et j'ai aussi pendant un bon paquet d'années critiqué le boulot des autres. Et un jour, je me suis dit, ça serait peut-être bien de passer de l'autre côté. Et c'est la rencontre avec Jean qui a tout déclenché. J'avais envie d'écrire quelque part, mais bon, c'est quand même une démarche entre. Enfin, je veux dire, c'est le plus difficile dans la démarche, c'est pas d'écrire, c'est d'aller faire la démarche suivante, c'est-à-dire d'aller à la rencontre ou plutôt à la recherche d'éditeurs, etc. Et il y a un pas à faire, c'est oser. Joséphine. Et donc j'ai osé. Elle est énorme celle-là.
Bravo, Bachung, tout ça. Belle. Bravo, Jean-Luc.
Et donc l'idée, c'est après de passer la deuxième marche, c'est d'aller envoyer ça à des éditeurs, quoi, en se disant est-ce que ça vaut le coup, est-ce que tout le monde va pas se foutre de moi.
Tu parles de oser effectivement amener ça à un éditeur, mais au départ, oser écrire, c'est pas évident non plus.
Ouais, ça m'a jamais gêné, ça.
Ah bon?
Non, par contre, ce à quoi j'ai fait attention, d'ailleurs, je suis en train de d'écrire un autre bouquin avec un illustrateur en ce moment, et la réflexion de l'éditeur qui va le prendre, la première réflexion, c'était que mon récit manquait un petit peu d'humour. Et on lui a répondu que si, enfin, le dessinateur qui me connaît lui a répondu que si on me disait ça, ça allait finir, on allait être censuré, quoi. et donc l'idée, c'était effectivement de rentrer dans un nouvel univers, c'est-à-dire d'écrire, c'est bien, mais effectivement d'aller le proposer après, c'est autre chose. Et effectivement, j'ai toujours écrit, ouais, mais il y a des marches à franchir quand même.
Mais la première fois que tu as écrit, c'était pas dans le but d'écrire cette série, le premier tome de cette série, Les Mange-Rêves. La première chose que tu as écrite, c'était quoi? Une nouvelle, je sais pas.
Non, c'était le bouquin avec avec Jean Fayeur, Monnaie de singe.
Le premier, c'est vraiment
ouais,
la première fois que tu as écrit.
J'allais dire en vrai, ouais.
Ouais. En vrai, ouais.
Ouais, écrire en vrai, ouais, c'était la première fois, ouais.
Bon, mais c'est pas pour critiquer non plus, bien sûr, mais enfin, t'avais quand même 40 ans bien tapé quand t'as commencé à écrire. Alors.
Ouais, il y avait des articles de presse, il y avait pas mal de choses, mais écrire un bouquin, c'est complètement différent. Mm-hmm. Écrire un article de presse ou écrire des critiques, enfin faire des critiques sur le. Parce que c'était en termes de bande dessinée et de rock, critiquer le boulot des autres, à la rigueur, c'est pas forcément facile tout le temps. Mais c'est certainement... Enfin, je veux dire que quand je réalise la tâche qu'il y a pour écrire un bouquin entier, c'est complètement différent. C'est une autre démarche, quoi. Donc, du coup, ouais, j'ai la chance d'avoir une compagne qui me dit que tout est possible. Et puis voilà. Puis donc, à un moment donné, on le fait. C'est, on pourrait avoir la malchance d'avoir quelqu'un qui vous freine, mais quelqu'un qui vous pousse, c'est génial, quoi.
Donc, bon, heureusement qu'elle est là, finalement.
Ouais, complètement, ouais, j'assume.
Allez, encore un morceau de musique, on se retrouve une dernière fois après, mais ce morceau de musique, c'est quoi? C'est Andy Jones?
Andy Jones, ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui fait partie de, d'un groupe qui n'existe plus, malheureusement, qui est gallois, qui a une voix sublime, qui sait écrire de la musique, qui sait enchanter, qui sait la jouer, qui sait tout faire, quoi. Andy Jones, ça fait partie des Boys from the Hill, mais je crois que, il me semble que le groupe n'existe plus, c'est un groupe gallois, ouais.
On l'écoute.
In the death, keep your eyes right and heading to the west, into the theme park. The day's drawing at the theme park. Where else have we been? Into a theme park. What are we gonna do when it's over and there's nothing left to sweat and blood, but different to another, trod down in the mud. The story of our strikes, oppression and pain, I never told you because of nothing to be gained. For our theme park, the day's droning at the theme park. Where else have we been? Into a theme park. What are we gonna do when it's over and there's nothing left to use? The quarrymen fell while the hidden were dispossessed. The mines of gas and burn, suffering, lingering death. All a feeding empire in which we have no stake. And now that it's all over, there's no looking to the state. From drawn by tourist board in the theme park. The day's drawn in at the theme park. Where else have we been? Into a theme park. What are we gonna do when it's over and there's nothing left to use?
Andy Jones sur France Bleu, Brésil, ce samedi après-midi, choix musical signé Jean-Luc Le Pogam, qui nous fait le plaisir d'être avec nous encore, hein, en notre compagnie, pendant quelques toutes petites minutes. Jean-Luc, pourquoi spécialement ce morceau?
Parce que c'est beau.
Ah bah voilà une bonne réponse. Voilà, non, c'est tout.
C'est du rêve, ouais. À l'état pur pour moi.
J'ai posé la question tout à l'heure, si tu écoutais de la musique en écrivant, tu nous as répondu non. Mais tu écoutes de la musique combien d'heures par jour? Parce que j'ai l'impression que c'est très important pour toi, la musique.
Ouais, c'est très important, ouais. On le retrouve dans mes livres. J'ai toujours des paroles de musique, j'ai toujours... ouais, des choses, voilà. J'écoute beaucoup de musique, effectivement. Ça dépend, en fait. Je sais pas si on peut dire... C'est un peu comme les gens qui disent combien de temps tu mets pour écrire un livre. C'est vrai que ça met un an, en gros. Mais t'y es pas tous les jours, t'y es pas toutes les heures. Il y a des moments où t'es en écriture, quand ça sort, tu peux plus arrêter tes doigts sur le clavier qui fume. Et la musique, c'est un petit peu pareil, quoi. J'en ai besoin quand voilà. Donc alors, je sais pas combien d'heures. On va dire 2 heures par jour.
C'est beaucoup, 2 heures sur 24. Hein. C'est bien.
Ouais, 2 heures sur 24, c'est pas mal. Ouais, moins de sommeil.
C'est la nuit donc que tu écoutes de la musique?
Non, pas forcément, mais c'est la nuit que je travaille. J'écouterai plutôt de la musique en fin de journée.
Bon, tu dors quand alors?
Ben, je dors très tôt le matin, voilà.
D'accord, là c'est tout, c'est juste...
J'aime bien bosser la nuit, ouais, c'est vrai.
Pour savoir. C'est important la nuit pour écrire?
Bah, c'est-à-dire que j'ai été dans le monde du rock pendant très longtemps et le jour ça le fait pas, quoi. C'est mon côté hibou.
Donc on ne se refait pas.
Ouais, exactement.
Les yeux cernés, c'est ça, c'est le côté hibou.
Voilà, les lunettes de soleil quand il y a du brouillard, c'est le côté hibou.
La suite des Manges Rêves, là c'est le miroir du rat, on parle du hibou, c'est 30 millions d'amis cette émission. Le miroir du rat, c'est le titre de ce nouveau numéro des Manges Rêves signé Jean-Luc Le Pogam. Le suivant
c'est la révolte des chiens.
Ouais. Ouais. Et on continue, 30 millions d'amis.
Voilà.
Les chiens.
Ouais, mais là c'était le rat. Le rat, pourquoi? Parce que bah, en fait, la ville dans laquelle les jeunes se sont enfermés, qui est devenue un nid de rébellion par rapport au gouvernement, est en fait à la fois un univers carcéral parce qu'ils se sont enfermés dedans et aussi un univers de liberté parce que bah, pour l'instant le gouvernement n'arrive pas à y rentrer. Malgré tous ces efforts, c'est-à-dire qu'ils vont y mettre des taupes, ils vont y faire rentrer des tas de gens, mais à chaque fois ils se font repérer, et à chaque fois donc la cellule solidarité est plus forte que le reste, quoi.
Dans les cités, il y a Tombe Mort, c'est là où sont les méchants, et il y a Taïfa.
Taïfa. Justement, ouais.
Forcément, on pense au groupe.
Bah oui. Bah ouais. Moi aussi, j'ai pensé à ce groupe-là, forcément, parce que c'est un groupe que j'ai adoré. Il y a fut une époque, notamment, je crois que c'était le premier disque qu'ils ont fait, dans lequel il y avait un morceau qui s'appelait Kaina. Et qu'on retrouve aussi Kaina, d'ailleurs, qui est une princesse berbère, qu'on retrouve dans le quatrième tome. Et pourquoi Taïfa? Parce que Taïfa, ça veut d'abord dire enfant rebelle, clan dissident. Et j'aimais bien cette idée, parce qu'en fait... il y a des idées de racisme ordinaire aussi qui m'exaspèrent un petit peu tout autour de nous et j'ai trouvé que c'était bien d'appeler cette ville-là comme ça, d'autant plus que cette ville existe, elle porte pas le même nom, elle est entre Rennes et Vannes, il y a une statue du pape dedans, il y a des caméras partout, c'est une ville qui m'a marqué quand même quand on visite et qu'on s'observe pratiquement quand on est dans les toilettes. Je me disais que c'était là qu'il fallait que ce soit Taïfa.
Merci Jean-Luc Le Pogam de nous parler des Manges Rêves et notamment du Miroir du Rat, hein, qui est le dernier pour le moment, le bon dernier, parce qu'il y a une suite qui est prévue.
Oui, on va se calmer parce que c'est sorti qu'il n'y a que 2 mois et, et voilà.
Comme tu dis, on va se calmer.
On va se calmer.
On évoquait Kaina de Red Cardel, on les entend dans quelques minutes. Merci.
À la Led Zeppelin en plus, c'est une version que j'ai adorée, que tu m'as fait découvrir parce que je connaissais que celle originale de l'album.
À plus tard Jean-Luc.
Au revoir, merci Michel. Salut.